VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Biron, il est midi à Bangui. Bonjour à tous. Le gouvernement centrafricain a paraphé aujourd'hui à Khartoum, au Soudan, un accord de paix avec 14 groupes armés. Cet accord sera signé ultérieurement à Bangui. Les négociations de Khartoum, lancées le 25 janvier à l'initiative de l'Union africaine et de l'ONU, ont rassemblé les principaux chefs des groupes armés et une importante délégation gouvernementale. Depuis la chute du président François Bozizé en 2013, qui a marqué le début d'une profonde crise en Centrafrique, ces groupes contrôlent environ 80% du territoire où une mission de l'ONU, la MINUSCA et l'armée tentent d'empêcher les violences quotidiennes. Le Cameroun a exprimé à Israël ses sincères regrets après les propos d'un ministre qui avait fait un rapprochement entre la situation des Juifs en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale et celle de l'ethnie bamiléké camerounaise. Le gouvernement déplore les propos de son ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, et a indiqué s'en dissocier sans pour autant annoncer de sanctions à son encontre. Ouagadougou abrite aujourd'hui le sommet du G5 Sahel qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Les chefs d'État réunis dans la capitale burkinabé doivent discuter des moyens de redynamiser la force antiterroriste sous-régionale qui peine depuis 2 ans à être vraiment opérationnelle. Le journaliste burkinabé Abdoulaye Barry esquisse ici des solutions pour sortir de l'impasse.
Il faut que d'abord les Africains sortent de ces schémas classiques qui nous enlisent pour prendre en charge en toute responsabilité la question de la sécurité, parce que c'est une question de souveraineté nationale. Et cela suppose aujourd'hui une véritable refondation de notre système de défense nationale. Le problème n'est pas un problème d'hommes ni d'équipement, parce qu'on a quand même des armées qui, en moyenne par pays, on peut retrouver près de 20 000 hommes en moyenne par pays, qui ne sont pas complètement non équipés comme on veut nous faire croire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut investir davantage dans le moral des troupes combattantes en revoyant nécessairement les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des soldats, en impliquant les populations au niveau local, en priorisant aussi les recrutements au niveau local, parce que ces gens ont le mérite de connaître le terrain et de maîtriser les codes sociaux. Aussi bien la gouvernance de l'armée que la gouvernance politique, ça doit être des gouvernances vertueuses pour que le militaire qui est au front puisse savoir que lui, il doit mourir pour sa patrie. Parce que tout le monde peut être militaire, mais aujourd'hui, il nous faut construire des armées où on a des vrais soldats qui prennent conscience qu'être un soldat, c'est un engagement pour la vie au service de la patrie. Et puis, le dernier élément, tant qu'on n'arrivera pas à résoudre la question de la Libye où chaque groupe se dispute une portion de terre, on ne pourra pas efficacement résoudre la question de la sécurité dans la région.
Le journaliste burkinabé Abdoulaye Barry. Le maire d'Andérambucane, dans le nord-est du Mali, a été tué hier par des militaires maliens qui ont ouvert le feu sur ce qu'ils qualifient de véhicule suspect à Menaka, la principale ville de la région. La précision, Irénée Amanoumbo.
C'était aux environs de 5h20 du matin à Menaka. Selon l'armée, un véhicule suspect en direction du dispositif militaire n'a pas obtempéré aux sommations. Le ministère de la Défense soutient que les militaires ont ouvert le feu sur le dit véhicule en raison de l'environnement sécuritaire marqué par des attaques kamikazes. Le maire d'Andérambucane, Ahmad Ahmed, et 3 autres personnes étaient à bord. Le maire a été mortellement atteint et les 3 autres blessés, déplore le ministère, faisant état de l'ouverture d'une enquête pour élucider, je cite, cette malheureuse circonstance. Fin de citation. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Et depuis 2015, les attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.
Les États-Unis ont offert lundi au Niger un bâtiment abritant un centre de communication et de transmission militaire d'une valeur de 16,5 millions de dollars pour aider ce pays à lutter contre les groupes islamistes, notamment Boko Haram, a annoncé l'ambassade américaine dans un communiqué. Cette infrastructure, située dans une caserne militaire de Niamey, la capitale, comprend notamment 2 centres d'opérations tactiques, du matériel de communication spécialisé. Vive controverse en Afrique du Sud à la suite d'une note diplomatique signée par 5 pays occidentaux sur la corruption. La chef de la diplomatie sud-africaine s'est entretenue lundi avec les diplomates signataires de la note, Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
Le document, dont des extraits ont été publiés dimanche par le journal Sunday Times, avait dit que l'ambitieux plan d'investissement du président sud-africain Cyril Ramaphosa échouera si de vigoureuses mesures ne sont pas prises contre la corruption. Aucun investisseur ne s'aventurera en Afrique du Sud sans garantie sérieuse de ses investissements, souligne la note diplomatique. Celle-ci a été signée par les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse, cinq pays représentant 75% des investissements étrangers en Afrique du Sud. Il faut dire que des scandales de corruption continuent de secouer le gouvernement sud-africain et l'ANC, le parti au pouvoir. Déplorant une rupture avec les usages diplomatiques, la chef de la diplomatie sud-africaine Lindiwe Sisulu s'est entretenue avec les signataires de la note. Les cinq diplomates occidentaux ont alors fait savoir que le document datait de 2018, qu'il n'avait pas été adressé au président Ramaphosa, mais qu'il visait plutôt à appuyer les demandes d'investissement de l'Afrique du Sud.
Le négociateur américain pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, est attendu demain mercredi à Pyongyang afin de préparer le prochain sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, prévu fin février, a annoncé hier le département d'État. Cette rencontre est censée ouvrir la porte à de nouveaux progrès concernant les engagements des deux parties, a précisé la diplomatie américaine, citant notamment la dénucléarisation, la transformation des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis, ainsi que la construction d'une paix durable sur la péninsule nord-coréenne.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump va prononcer ce soir son traditionnel discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès. Ce discours annuel du chef de l'exécutif américain devait se tenir il y a une semaine, mais a dû être reporté à cause de la fermeture partielle du gouvernement, faute d'accord sur le budget. D'ailleurs, un autre shutdown n'est pas exclu si un accord n'est pas trouvé d'ici au 15 février.
Cela faisait 9 ans que le président de la Chambre, Nancy Pelosi, n'avait plus présidé un discours sur l'état de l'Union, alors qu'elle était enthousiaste en écoutant l'ancien président Barack Obama dérouler son programme pour l'année 2010. Elle a déjà annoncé la couleur pour ce qui est du discours de Donald Trump ce mardi.
Il n'est pas prévu d'argent dans la loi pour le mur.
Donald Trump, lui aussi, reste droit dans ses bottes. Il continue d'exiger son mur à la frontière avec le Mexique.
S'il n'y a pas de mur, ça ne marche pas. Elle joue. S'il n'y a pas de mur, ça ne marchera pas. Et nous construisons le mur en ce moment.
Un comité bipartite du Sénat et de la Chambre a moins de 2 semaines pour concocter une proposition sur la sécurité à la frontière qui ferait partie du budget devant être approuvée avant le 15 février pour éviter une autre fermeture du gouvernement. Ben Cardin est sénateur démocrate.
Le shutdown de Trump était révélateur. Après 35 jours, beaucoup d'Américains comprennent mieux le dur travail qu'abattent nos employés fédéraux pour soutenir notre économie, notre sécurité, la santé publique et la vie de tous les jours.
Mitch McConnell, le patron républicain du Sénat, estime qu'il faut éviter un autre shutdown à tout prix.
Je soutiens tout ce qui marche, ce qui veut dire qu'il faut éviter un shutdown, qu'il faut éviter que le président ne sente le besoin de déclarer l'état d'urgence. La manière d'y arriver, comme vous le savez, a été un défi.
Mais il n'y a pas que le mur et l'immigration qui vont occuper les débats au Congrès lors du discours sur l'état de l'Union. Le président devrait s'expliquer sur sa décision de se retirer de la Syrie, arguant que le groupe État islamique a été vaincu. Cette assertion a été contredite par le directeur de l'Agence nationale des renseignements, Dan Coats, devant le Congrès. Le président pourra aussi mettre en exergue les bons résultats de l'économie américaine. 300 000 nouveaux emplois ont été créés en janvier, dépassant les prévisions. Le taux de chômage, lui, reste à 4 %.
Des dizaines de milliers de catholiques et plusieurs milliers de musulmans ont assisté aujourd'hui à la messe dite par le pape François dans un stade d'Abu Dhabi, une première dans l'histoire de la péninsule arabique. Quelques 135 000 fidèles ont assisté à l'événement et en réponse à l'appel au dialogue interreligieux lancé lundi par le pape lors d'une rencontre avec les dirigeants émiratis, environ 4 000 musulmans, dont des responsables gouvernementaux, ont aussi assisté à la messe selon les organisateurs. Et pour terminer, au moins 8 personnes sont mortes dans un violent incendie, a priori d'origine criminelle, qui s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris en France, selon un bilan encore provisoire donné par le procureur. Une trentaine d'autres personnes ont été blessées, a précisé le magistrat Rémi Hades, qui s'est exprimé devant la presse. À ce stade et avec les éléments dont nous disposons, c'est la thèse criminelle qui est privilégiée et une personne a été interpellée puis placée en garde à vue, selon le procureur français. Fin de ce journal, le prochain c'est dans 50 minutes. Vous retrouvez la Réfrancif pour un second journal pour la mi-journée. Jean-Roger Lyon à ce micro, bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.